Bon, vas-y. Vous avez trouvé. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand? Éternel. Jusque à quand? Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Tous, à certains moments de notre parcours spirituel, de notre marche avec le Seigneur, frères et sœurs, tous, nous passons tôt ou tard par des moments où, sous la pression de l'épreuve, de la difficulté, de la tentation, d'un exaucement qui tarde à venir, tous, par moments, on ressent cette. Peut-être nous ne le formulons pas comme David, lui, c'est un psaume de David, comme David, lui, a eu à un moment le courage de le formuler. J'aime beaucoup les psaumes parce que les auteurs ont l'honnêteté, le courage, sans manquer de respect au Seigneur, de dire tout haut ce que tous les chrétiens pensent tout bas un jour ou l'autre. Et si ça t'est déjà arrivé, ne te culpabilise pas. Si ça t'arrive, ne te culpabilise pas. Si ça t'est pas arrivé un jour, ça t'arrivera. Parce que nous avons le meilleur en nous par la grâce de Dieu, mais nous avons une dimension humaine. Et David, ici, l'homme selon le cœur de Dieu, faut-il le rappeler, passe par un moment extrêmement compliqué, lequel on ne sait pas. Le contexte ne dit rien. Est-ce que c'est par rapport à son beau-père? C'est par rapport à Saül? Est-ce que c'est par rapport à la rébellion d'Absalom? Est-ce que c'est par rapport à Adonijah? Est-ce que, peu importe, on ne sait pas, est-ce que c'est familial ou autre, mais on voit ici que David est confronté à une situation qui dure et qui ne se règle pas. C'est pas faute de prière, c'est pas faute de foi. C'est pas faute de demander au Seigneur, c'est pas que nous ne croyons pas. Justement, c'est ce qui fait l'incompréhension, c'est que nous s'y croyons, c'est que nous savons que le Seigneur peut, c'est que Stéphane ne nous apprend strictement rien quand il nous fait chanter que Dieu est souverain sur le trône, parce que si on n'en avait pas la conviction, on serait pas là pour prier. Donc, on sait pertinemment que, mais le temps passe. Et ici, David est confronté à une situation, probablement, familial, mais je ne veux pas faire de conjectures inutiles. Mais peu importe la situation, ici, il y a une pression qui amène chez lui un, pardonnez-moi, mais un ras-le-bol, un trop-plein, et une situation qui devient oppressante, usante. Ça finit réellement par l'accaparer. Et cette pression est tellement forte que devant ces non-réponses de Dieu, parce que Dieu qui agit, Dieu qui exauce, Dieu qui parle, Dieu qui pourvoit, Dieu qui répond, c'est biblique. Et Dieu qui garde le silence, c'est biblique aussi. Et Dieu qui m'apprend la patience. Et le Seigneur qui me teste, c'est biblique aussi. Et là, la pression est telle que quatre fois, et ce n'est pas de la part de David, c'est pas un manque de respect vis-à-vis du Seigneur. Il parle simplement de la pression de son âme, parce que ça fait un moment que cette situation, quelle est-elle? Peu importe, est-ce que c'est une épreuve, une tentation, c'est une oppression, une pression, est-ce que c'est un nouveau désert, est-ce que c'est une autre tempête, est-ce que c'est encore une injustice, est-ce que c'est une forme de persécution, est-ce que c'est un de ces mots, MOTS, que nous ne voulons pas voir, mais qui pourtant sont omniprésents dans la parole? Est-ce que c'est un de ces mots MAUX que nous ne voulons pas, mais qui pourtant régulièrement va venir nous éprouver? Il y a des situations, elles sont là, elles sont tellement oppressantes, et David, je bénis Dieu pour ses auteurs, qu'il a osé écrire ce que moi, certainement pasteur, chrétien, disciple, n'oserais pas dire. Seigneur, ça va durer encore combien de temps cette histoire? Là, vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus avec ce fils, j'en peux plus avec cette fille, j'en peux plus avec cette collègue, j'en peux plus avec cette situation, j'en peux plus de mon mari, j'en peux plus de cette tristesse dans mon âme, j'en peux plus de ce vide, j'en peux plus de... Et chacun va pouvoir à un moment ou à un autre mettre quelque chose dans différent. Ce ne sera pas la même chose pour vous que pour moi, que pour lui, que pour elle, parce qu'il y a quelque chose qui est là, mais qui dure, et qui est tellement oppressant pour que même l'homme selon le cœur de Dieu finisse par dire: Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? On sait pertinemment que Dieu ne nous oublie pas. Mais la réalité de certaines circonstances sous la pression nous font dire, et oui, parce qu'il a vraiment ce sentiment. Alors évidemment, Seigneur, merci, ce n'est qu'une impression. La définition d'une impression, c'est quelque chose qui est imprimé en nous. C'est une impression, un état d'âme, une impression, un sentiment. Tout ça, ça ne détermine pas la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit dans Ésaïe, « Je t'ai gravé sur mes mains, je ne t'abandonnerai jamais. Même si l'enfant, même si mère oubliait l'enfant qu'elle allait, moi, je t'oublierai jamais. » Donc, merci Seigneur. Ça, c'est la réalité spirituelle, c'est ce que Dieu dit. Mais il y a des sentiments d'âme qui sont occasionnés par des pressions extérieures qui sont tellement fortes qu'on va dire, jusqu'à quand? Parfois, jusqu'à quand? J'ai vraiment, c'est plus qu'une impression. Seigneur, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, en plus, t'es tout puissant, on l'a encore chanté, on le sait, on le croit, il n'y a aucun souci. Seigneur, pourquoi cette situation, elle n'est pas réglée depuis le temps? Et cette oppression est là. Seigneur, mais en fait, tu m'oublies, c'est pas possible. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vous avez jamais remarqué que dans les déserts, le désert est synonyme de vide. David a traversé des déserts. Le désert est synonyme de vide, de néant. La définition du désert, c'est Monsieur Lapalisse, hein, pardon, hein, c'est que dans le désert, il n'y a rien. Par du sable, de la chaleur, et c'est terriblement éprouvant. Dans le désert, il n'y a rien. Tellement rien, c'est tellement vide. La chaleur est tellement écrasante, tellement oppressante, il n'y a tellement rien devant, derrière, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus d'où on vient, on ne sait plus où on va. Dans le désert, c'est tellement oppressant que même Dieu semble absent. J'ai bien dit semble. Si vous connaissez ces moments, j'en vois qu'ils font. Mais on passe par ces moments. Seigneur, je te parle, je te demande, j'insiste, je persévère. Seigneur, tu ne réponds pas. Elle est où ta révélation? Seigneur, où est la révélation de ton cœur? Pourquoi me caches-tu ta face? Pourquoi est-ce que par moments, je ne te ressens plus, Seigneur, je voudrais? Et jusqu'à quand est-ce que j'aurai? Donc, il y a ce sentiment extrêmement fort d'oubli, d'abandon. Il y a ce sentiment profond d'absence de Dieu, qui est réel, c'est un sentiment seulement, mais un sentiment tellement puissant, malheureusement. Jusqu'à quand aurais-je aussi des soucis dans mon âme? Des soucis, des inquiétudes, parce que c'est là, c'est à l'intérieur, ça me ronge, et peu importe le sujet, ça, oh. Du souci, de l'inquiétude dans l'âme, ça me plombe. J'essaie d'ouvrir ma Bible, je ne vois pas le Seigneur. J'essaie d'ouvrir ma Bible, j'entends pas sa voix, je lis des trucs, mais ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis dans l'âme, il y a des choses qui sont là, et qui sont en train de plomber et d'accaparer l'espace. Alors on a beau essayer de... Des soucis dans l'âme. Parfois on vient, c'est pas un reproche, ça arrive à tous. On vient dans une réunion, pardon, je ne serais pas venu, ça aurait été pareil. Parce qu'on a eu tellement de mal, hein. On a rien déchargé, on a entendu des choses vraies, ça nous a fait du bien sur l'instant, on repart, mais il y a quelque chose dans l'âme qui est là, qui m'accapare. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur, la peine, la tristesse, le chagrin. Le Seigneur ne nous appelle surtout pas à nous y installer, c'est trop dangereux. Mais on peut le connaître, on peut y passer, bien sûr. David y est passé, les grands hommes de Dieu y sont passés. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur, la tristesse, de la peine, et quelle que soit la raison pour laquelle on a une tristesse, il y a quelque chose qui est là. Je vis avec, je marche avec, je me lève avec, je me couche avec, j'ouvre la Bible avec, je vais au réunion avec, je rentre à la maison avec. Il y a quelque chose qui ne se dégage pas, qui est là, qui est oppressant, juste, et tout ça au bout d'un moment, avec ses ennemis, quelle que soit la forme, ennemis, ce sont des, dans l'image, des circonstances, peu importe la circonstance. Mon ennemi est là, et il s'élève encore, et encore, et encore, et encore. Jusque à quand? Jusque à quand? Jusque à quand? Qu'est-ce qu'on fait? Où est le problème? Quel est le véritable besoin? Comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on va multiplier de vaines paroles? Est-ce que, je ne sais pas, certains pensent qu'ils n'ont pas suffisamment prié. On finit par basculer dans la multiplication de vaines paroles. Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez. Bien sûr, la persévérance, c'est biblique. Ne multipliez pas de vaines paroles, c'est superstitieux, ça ne produit rien. Votre Père Céleste sait avant que vous ayez ouvert la bouche. Oui, persévérez, mais ne multipliez pas de vaines paroles. Puis par moments, on finit par se résigner, on finit par vivre avec certaines situations, avec certains sentiments, avec certaines tristesses. On finit par vivre avec ça parce que, ben, comme on dit, ben, faut bien faire contre le mauvais cœur. C'est le bon cœur, faut bien faire. Bon gré, mal gré. Et puis, on fait du mieux qu'on peut, on essaye, mais on sait faire du mieux. Il y a quelque chose qui va pas, il ne s'en sert pas. Il y a trois facettes dans ce psaume. Dans la première partie, en six versets, il y a trois parties très claires. La première partie, David est focalisé, on ne peut pas lui reprocher, c'est un homme de la même nature que nous, lui comme lui. David est focalisé, il est branché, pardonnez-moi, il est branché sur radio circonstances. Ses yeux sont braqués sur ce qu'il voit, sur ce qu'il a, sur ce qu'il n'a pas, sur ce qu'il n'a plus, sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu n'a pas fait, sur ce qu'il a demandé, ce qui n'a pas été exaucé, etc. Il est branché. Ce sont les premiers versets. Jusque à quand? Les versets 2, 3 et versets 2 et 3. Et puis, là, il est branché sur radio circonstances. Puis à un moment, David, il comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que les autres. Il commence à comprendre par la grâce de Dieu quel est le chemin qui se profile devant lui pour qu'il puisse sortir de cette situation. Je parle de cette situation intérieure, pas de la circonstance, parce que la circonstance pour Dieu, c'est rien. Celui qui a créé les cieux et la terre, mon frère, ma sœur, tu le sais très bien, il dit un mot, et la chose arrive. Du néant, il crée. Une seule parole du Seigneur, une seule parole, Seigneur, un mot de toi, mon serviteur est guéri. Un mot de toi, et le fils du centenier a été guéri à distance, etc. Seigneur, un seul mot de toi. Mais le problème, on le sait, ne peut pas être... Enfin, je l'espère qu'on le sait. David comprend que finalement, le problème n'est pas circonstanciel. Le vrai problème, ce n'est pas ta famille. Le vrai problème, ce ne sont pas les collègues, le travail, le machin, le patron, le truc, je ne sais pas quoi. Le vrai problème n'est pas circonstanciel. Le circonstanciel est juste un révélateur de ce qui peut manquer à l'intérieur de ton âme et que Dieu voudrait te donner en priorité. Et David commence à comprendre que le circonstanciel, la situation, j'ose redire, j'aime pas trop les conjectures, mais connaissant la vie de David, là, il y a du Absalom ou du Saül, il y a un problème familial, c'est sûr à 90%. Cette situation pour David, très probablement familiale, là c'est clair, net et précis. Le problème, ce n'est pas Absalom. Le vrai problème, ce n'est pas Adonijah. Le vrai problème, ce n'est pas Amnon. Le vrai problème, ce n'est pas Saül. Le vrai problème, ce n'est pas Mika, ce n'est pas ma femme. Le problème, c'est pas... Non, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que je n'arrive pas encore à voir la situation, Seigneur, comme toi tu l'as voulu. Et c'est pour ça que je suis en train de sombrer, que je suis en train de mourir. Je n'arrive pas à le voir, lui, à l'avoir, elle, à voir cette situation, ce problème, cette difficulté, cette tentation, cette épreuve, cette maladie qui dure. Je n'arrive pas à voir ça encore avec tes yeux, je n'arrive pas à le voir. Et là, il y a la première étape du psaume où c'est normal parce que la foi n'est pas du déni. Il a fait le constat des circonstances, il les a bien analysées, il a été tellement sous pression qu'il en a dit, entre guillemets, hein, des bêtises, mais heureusement qu'il les a dites. Parce que, du coup, ça me fait du bien qu'il ait dit ça, merci Seigneur. Même si je sais très bien que c'est pas vrai, Dieu l'a pas oublié, Dieu ne lui a pas caché sa face. Il n'y a pas de ça. Et là, il commence à évoluer. Ses yeux vont commencer à se détacher des circonstances et de ses sentiments, de ses états d'âme. De son ressenti, de son impression. Tout ça, bien aimé, à un moment, David comprend que tout ça, ce n'est pas la réalité spirituelle. Il faut absolument qu'il entre dans la réalité spirituelle et qu'il voie, on va dire, au-delà de la circonstance, au-delà du visible, et qu'il voie ce que réellement Dieu voit et qu'il voie son véritable besoin. Oui, tu as besoin d'une guérison. Oui, tu as besoin que tes enfants se convertissent. Oui, tu as besoin que le travail ceci. Oui, tu as besoin que l'épreuve cela. C'est totalement vrai. Tu as besoin que ton église... Oui, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais David commence à se détacher, à détacher son regard, c'est spirituel de ça, et il va commencer à orienter sa prière différemment. C'est le verset 4. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. » Et vous savez, bien aimé, ça, c'est une super prière. C'est une prière que je crois je ne fais pas assez souvent. Que nous ne faisons pas assez souvent. Seigneur, donne-moi de voir cette personne comme toi tu l'as. Ce qui signifiera derrière que je l'aime comme toi tu l'aimes. Seigneur, donne-moi de voir cette personne comme toi tu la vois. Donne-moi ton regard sur cette situation. Permets-moi de comprendre, j'en avais parlé dans d'autres thématiques, pas seulement le pourquoi, comment on en est arrivé là, mais de comprendre aussi le quoi. Où est-ce que tu veux en venir? Et tout ça, c'est spirituel. Tout ça, c'est au-delà du visible. Tout ça, c'est au-delà du circonstanciel. Et c'est là que David comprend qu'il faut qu'il voie derrière le circonstanciel, derrière le visible, donne à mes yeux la clarté. David n'a jamais eu le problème de cécité. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas en train de parler de charnel. Il n'a pas besoin d'une guérison. David a besoin de voir, il en est conscient et il va arrêter de dire « Seigneur fait, Seigneur donne, Seigneur agit, Seigneur exauce, Seigneur pourquoi, Seigneur comment, Seigneur je ne comprends plus, Seigneur je ne te ressens pas, Seigneur il... » Au bout d'un moment, tout ça, c'est stop. Il faut arrêter. Seigneur, donne-moi de voir cette situation comme tu la vois. Il s'agit des yeux spirituels. Donne à mes yeux la clarté. Vous savez, bien aimé, bien sûr que les situations de vie par lesquelles nous passons les uns et les autres sont profondément, parfois injustes, profondément éprouvantes, douloureuses. Bien sûr, on le dit tellement de fois, je le dirai encore plein de fois, la foi n'est pas du déni. Jamais nous ne minimisons la gravité des circonstances. La foi regarde les circonstances en face, elle regarde un géant en face. Si le géant fait 3 mètres, non, il ne fait pas 1m50, ce n'est pas du déni, je ne suis pas en train d'atténuer. Si le géant s'appelle Goliath, s'il fait 3 mètres, c'est un géant qui s'appelle Goliath et qui fait 3 mètres. S'il est équipé comme ça et comme ça, si mes enfants, si mon église, si ma situation, si mon travail, si c'est comme ça, je ne vais pas le minimiser, je ne vais pas dire « Ah, c'est pas si grave ». Si, c'est super sérieux, c'est super grave. La foi n'est pas du déni. La foi ne m'amène pas à minimiser les choses. La foi regarde les choses en face, et une fois qu'elle les a bien considérées en face, elle va, par la grâce de Dieu, voir au-delà de tout cela pour voir le tout quoi? L'objectif de Dieu, où est-ce qu'il veut? Et c'est pas évident parce que je sais bien que quand on est devant un géant, il a du mal à voir l'avenir. Donne à mes yeux, c'est spirituel, la clarté. J'ai besoin, Seigneur, de voir comme tu vois. Il me faut un éclairage spirituel sur ma situation, ta situation, quelle qu'elle soit. Et ça, bien-aimé, c'est toujours, même si les besoins circonstanciels sont réels, c'est toujours le premier besoin. Toujours. Commencement, s'il n'y a pas de lumière, on ne fait rien. Dieu créa les cieux et la terre, il dit, parce que la terre était un tournebleu, elle était informée. La première chose que Dieu fait, que la lumière soit. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de création, il n'y a pas la terre qui est un tohu-bohu, pardon, ne deviendra pas cette création magnifique que nous connaissons. S'il n'y a pas de lumière, il ne se passe rien du tout. Le premier besoin, pas seulement dans la nature pour la vie, mais aussi dans la réalité spirituelle de nos âmes et de nos circonstances, c'est toujours un besoin de lumière intérieure. Et là, je me permets de me poser et de nous poser cette question, même pour ceux qui écouteront le message en ligne. Est-ce qu'on est bien sûr qu'on a le bon éclairage? Est-ce qu'on a bien compris que tant qu'on ne verra pas comme Dieu voit, on va tourner en rond. On ne saura pas. On ne saura pas, je n'ai pas le bon éclairage. Je ne verrai pas comme Dieu voit, je ne saurai pas raisonner comme lui, je ne saurai pas me taire quand il faut, je ne saurai pas parler quand il faut, et pour parler lui, mais pour dire quoi? J'ai besoin de lumière pour savoir ce qu'il faut dans cette situation. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, David, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, afin que je ne m'endorme pas vers ces cas du sommeil de la mort. David n'a pas besoin d'une petite sieste, il n'est pas fatigué physiquement. Même si vous avez remarqué, quand il y a des choses qui nous fatiguent intérieurement, le corps, il en prend un coup aussi. C'est pareil. Mais ce n'est pas ça. Il n'a pas besoin d'un. Là encore, c'est métaphorique. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, c'est-à-dire afin que cette raison ne me. Cette circonstance, quelle qu'elle soit, je le redis, cette circonstance ne me fasse pas mourir spirituellement, afin que mon ennemi, quelle que soit la forme circonstancielle, mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et là, David est en train de dire, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. La seule façon pour que je n'y reste pas, que je ne devienne pas folle, que je ne devienne pas fou, que ma foi ne sombre pas, que je finisse pas par tout envoyer balader, parce que ça arrive aussi, parenthèse. Au bout d'un moment, on n'a plus envie, on n'a plus envie de parler. Tout le monde nous agace. Afin que cette situation, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, afin que cette situation n'ait pas raison de moi, afin qu'elle ne vienne pas me tuer spirituellement parlant. Et que mes adversaires, et au-delà de n'importe quelle circonstance, se tient l'adversaire de nos âmes, afin que mes adversaires ne se réjouissent, ne me. Pardon, moi aussi je suis fatigué. Pour moi aussi, il fait 45 la journée et 37 le soir. Afin que mes adversaires ne se réjouissent pas, pardon, si je chancelle. À chaque circonstance, souviens-toi bien, mon bien-aimé, à chaque circonstance, chaque épreuve, le Seigneur a promis que c'est comme une marche. Je vous l'ai déjà dit, la marche, dans sa grâce, le Seigneur a permis qu'elle ne soit jamais trop haute. Parce qu'il n'éprouve jamais au-delà de nos forces. C'est sa promesse, c'est écrit. On est submergé, ça nous paraît trop. Je veux dire, on n'arrive pas à voir, c'est pas possible, c'est trop, ça fait trop longtemps, etc. Il faut savoir le dire, il faut savoir épancher son âme. Puis à un moment, il faut savoir aussi corriger sa façon de voir et sa façon de parler. Parce que dire, ah, c'est trop, j'arrive. Mais oui, mais implicitement, je vais remettre en question la souveraineté de Dieu. Dieu s'est-il trompé sur ce qui se présente devant moi? M'a-t-il éprouvé au-delà de mes forces? Vous vous rendez compte? Ce serait terrible, ce serait grave par rapport aux promesses de la vie. Donc, il faut aussi, à un moment, savoir parler et pencher son âme, même si on dit des choses un petit peu, c'est pas grave, le Seigneur le sait. Mais la tristesse, on peut connaître. Jusqu'à quand on peut connaître? Mais à un moment, David, il a commencé à débloquer son regard des circonstances et il a commencé à adopter le regard de Dieu parce que je ne veux pas que cette situation ait raison de moi. Alors, Seigneur, donne-moi ta lumière, donne-moi une clarté. Ça, c'est la deuxième étape. Afin que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle, parce que la marche, oui, c'est super dur. Mais la marche n'est pas trop haute. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, ne se trompe jamais. On peut tout entendre. On peut entendre des bien-aimés qui disent « J'en ai plus, Stéphane, j'en ai marre, je vais quitter, je vais partir, je ne supporte pas ça. » On peut tout entendre. Ça fait des mois, des années, je m'en sors pas, il y a telle situation. On peut tout entendre. Par contre, on ne peut pas entendre que Dieu aurait éprouvé quelqu'un au-delà de ses forces. Si Dieu fait ça, je ferme ma Bible, je quitte le pastorat, je remonte à Paris, je me refais construire une baraque et je retourne dans la police. C'est hors de question. Je ne servirai pas, je ne servirai même lui. Je ne servirai pas un Dieu qui n'est pas souverain. Je ne servirai pas un Dieu qui n'est pas capable de... Non, il a tout dosé, il a tout mesuré. Alors du coup, il est où le véritable... Ah, je commence à comprendre qu'il faudrait vraiment que je vois différemment, que je pense différemment, que j'analyse différemment, que je parle différemment. Que je comprenne aussi. C'est l'un des buts, c'est la troisième étape de ce psaume. Je comprenne aussi que si le Seigneur dans sa main, Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ayez demandé. Je comprends que les exaucements, les bénédictions dans le domaine corporel, matériel, familial, physique, etc. C'est très bien. C'est pas ça la vraie bénédiction. La bénédiction, c'est Jésus lui-même. La bénédiction, c'est ça. Présence dans mon cœur. Mon premier besoin est un besoin de lumière pour voir la situation, pour voir intérieurement, objectivement, honnêtement, à quoi je suis. Et ensuite, troisième étape, verset 6, il n'est pas où ce psaume. Il ne s'est pas passé 3 semaines, ni 3 mois, ni 3 ans entre le verset 5 et le verset 6. On n'a plus, pardonnez-moi, on n'a plus le même bonhomme. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse au fond du cœur. Et juste avant la réunion, David, il était là. Ouais, Seigneur, ça suffit, tu me caches ta face, je te ressens pas. J'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Première étape. Se décrocher des circonstances. Deuxième étape, considérer, regarder, prier pour que le Seigneur lui donne sa lumière, sa force, ses ressources spirituelles, aller puiser dans sa communion, nous intéresser à ce qu'il fait, fera, ne fera pas. J'ouvre une autre parenthèse. Vous comprenez tout de ce que Dieu fait ou ne fait pas? Vous êtes capable de tout m'expliquer ce que Dieu fait? Ben, moi aussi, je suis comme ça, et des moments, je fais. Ce qu'il fera pas, en son temps, comment, etc. Il y a tellement d'éléments, c'est une alchimie dans laquelle Dieu seul arrive à s'y retrouver. Heureusement, il est souverain, il n'y a que lui qui s'y retrouve. Mais ça, Seigneur, c'est ton affaire. En son temps, ce que tu feras est parfait. Mais je veux maintenant me centrer, me focaliser sur des besoins d'âme, sur du spirituel. Et mon âme a réellement besoin d'avoir une nouvelle dimension de communion avec toi, Seigneur. Mon âme a réellement besoin d'un renouvellement, d'un rafraîchissement. Mon âme a réellement besoin d'avoir ta présence et d'avoir ces temps de communion avec toi parce que tu m'as fait du bien. Et là, on a un homme qui, en réalité, pour qui? C'est pas possible, la situation s'est pas réglée entre le verset 5 et le verset 6. On a un homme pour qui, extérieurement, circonstanciellement parlant. Vous voyez, comme quoi même là, j'arrive à me dire des mots compliqués, même quand je suis fatigué. Des fois, ça m'a. même dans les circonstances. Merci Seigneur, de toute façon, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il a vécu une visitation. Il a vécu un renouvellement intérieur. Il a vécu un rafraîchissement. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Rien n'est réglé, mais entre le circonstanciel, une prière inspirée par l'Esprit sur des choses spirituelles et la visitation de l'Esprit dans son âme, dans son être intérieur, et là, entre le verset 5 et 6, on n'a plus le même bonheur. Alors que dans les circonstances, rien n'est réglé. On est d'accord? Et c'est ça la véritable, le résultat de la foi. C'est ça la véritable victoire. C'est que quand les choses n'ont pas changé à l'extérieur, moi à l'intérieur j'ai changé. Tout a changé à l'intérieur. Moi, c'est une prise de position. Je vais renouveler mon engagement avec Dieu. Je vais renouveler ma foi, renouveler ma confiance. Moi, c'est une position. Moi, j'ai confiance en ta bonté. C'est fini, mais jusqu'à quand m'oublieras-tu? Moi, j'ai confiance, un renouvellement dans la foi, une visitation de l'Esprit qui lui a fait du bien. Prise de position, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse, de la joie dans le cœur. Quel changement! C'est plus du tout le même homme. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà, bien-aimé, David conclut comme ça. En 6 petits versets. 3 grandes étapes, 3 grands axes de réaction dans nos vies face à l'épreuve dans les filles. On a bien fait le constat des circonstances, elles nous ont bien oppressés, elles nous ont fait dire des bêtises. On a compris que le problème était beaucoup plus profond que ça, surtout pour un Dieu qui tient tout dans sa main et qui sait avant même qu'on est ouvert la bouche pour prier. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif dans mon cœur? Donne-moi. Il me le dit. Je vais te donner ma lumière. Je veux que tu voies comme je vois. Je veux que tu sois sage comme je suis sage. Je veux que tu sois un témoignage, pas en parole seulement, mais un témoignage vécu. Je veux te donner ma sagesse, mon discernement, ma lumière, ma joie, ma paix. Je veux que tu sois comme moi. Je veux que tu discernes tes besoins spirituels. Ici, en l'occurrence, le premier besoin, la lumière dans mon cœur, afin que cette situation n'ait pas raison de toi. Et puis ensuite vient naturellement cette prise de position, cette visitation. Et cet homme est affecté. Je peux l'être, tu peux l'être. Même si rien n'a changé à l'extérieur, à l'intérieur, tout a changé. Il a un regard nouveau, puisque la lumière de Dieu l'a éclairé. Il a un regard nouveau. Il a un discours nouveau, une façon de penser nouvelle, il a des raisonnements nouveaux, il a un cœur nouveau, il a des propos, des paroles nouvelles, tout est nouveau. À l'extérieur, rien n'est réglé, mais à l'intérieur, il est vainqueur. Et c'est ça, la victoire de la foi, bien-aimé. On se recueille, s'il vous plaît.